Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h, ce soir, Police, l'amour vache. Des bravos, des bisous, des étreintes même, le 11 janvier 2015, la France se découvre amoureuse de sa police. Le traumatisme des attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercachère de Vincennes est passé par là. En février, l'Express publie un sondage selon lequel 84% des Français âgés de plus de 18 ans ont une bonne opinion des policiers, 20 points de plus par rapport à une enquête de l'automne précédent. Dans le Figaro, Lucide, un officier de police, commente cet état de grâce. On prend la vague et on en profite parce qu'on sait que ça ne va pas durer. Alors en effet, ça n'a pas duré. Une loi travaille plus tard, il n'est plus question désormais que de divorce entre la population et les forces de l'ordre. Les manifestations dégénèrent en affrontements, il y a des blessés, des coups, du sang. La police doit protéger les citoyens et non les frapper, proclame une affiche de la CGT. Les syndicats policiers dénoncent de leur côté une haine anti-flic. Alors police, l'amour vache, c'est notre sujet du jour. Et pour en parler, je reçois trois invités ce soir. Loïc Fanouillère, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire administratif général du syndicat Alliance Police Nationale, syndicat à l'origine de l'appel à manifester ce mercredi pour dénoncer la haine anti-flic. Pour discuter avec vous, Annelise Lierville, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la directrice des programmes de l'ACAT, Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. C'est une ONG qui a publié en mars dernier un rapport intitulé « L'ordre et la force, enquête sur l'usage de la force par les représentants de la loi en France ». Nous allons évidemment avoir l'occasion d'en discuter. Puis troisième invité, Christian Mouana, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, chercheur au CESDIP, le Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénale. Vous avez publié aux éditions du Champ Social en 2012 « La police contre les citoyens ». On n'entend pas le point d'interrogation, mais il est évidemment extrêmement important. Christian Moina, il y avait donc aujourd'hui cette manifestation organisée par des syndicats de policiers pour dénoncer la haine anti-flic. Est-ce que c'est quelque chose d'inédit ?
Alors, des manifestations de policiers, non, ce n'est pas inédit.
Mais sur ce thème-là ?
Alors, sur ce thème-là, dit aussi explicitement, oui, c'est assez neuf, puisque les précédentes manifestations étaient plutôt dirigées contre le gouvernement. Il y a eu un certain nombre de manifestations contre l'utilisation des statistiques dans la police dans la période précédente. Il y a eu des manifestations historiquement en 83 quand des policiers avaient tourné le dos à Robert Badinter place Vendôme en uniforme. Donc on a quand même une histoire de protestation policière depuis un certain nombre d'années.
Mais de là à parler de haine anti-flic, c'est peut-être un cran au-dessus de ce qui est fait d'habitude, Loïc. Pourquoi avoir retenu d'ailleurs cette formulation et cette haine anti-flic, si elle existe vraiment, comment elle se manifeste à vos yeux ?
C'est vrai que le contexte s'y prêtait, il y avait un sentiment de ras-le-bol, de colère au sein des collègues, et nous avons eu cette idée de faire venir à nous notamment la population, pas que les collègues, puisque un sondage est encore sorti ce matin où effectivement on est à peu près sur le même zoo au niveau des pourcentages. Il y a 80% des citoyens qui disent nous soutenir. On a vécu 18 derniers mois extrêmement compliqués au niveau de l'emploi, au niveau de la tension physique, la tension psychologique. Les collègues sont très fatigués et on a ça reste quand même marginal, notamment mais relié par des mouvements puissants aujourd'hui que sont les médias et surtout les réseaux sociaux. Une haine avec des mots extrêmement violents, une balle, un policier, etc.
Incident d'ailleurs aussi violent aujourd'hui qui est la nuit à Paris avec une voiture de police qui a été incendiée par des manifestants alors qu'il y avait des policiers à l'intérieur. Bon, évidemment, ils sont sains et saufs, mais ce sont des actes violents dont vous n'aviez pas l'habitude, enfin auquel vous n'aviez pas l'habitude d'être confronté jusqu'à présent.
Non, j'ai discuté avec un collègue qui travaille en CRS, donc ce matin, il me disait que ça fait 20 ans qu'il travaille comme CRS et jamais il n'avait eu en face de lui une telle violence.
Christian Moina.
Oui, enfin, je voudrais quand même dire que là aussi, les violences contre la police ne sont pas neuves. On a quand même eu des émeutes en 2005 avec et plein d'événements avant et après. C'est un espèce de point d'orgue, mais il y a eu plein d'événements. Il y a quand même un vrai problème qui est entre une partie de la population qui ne se sent pas du coup aimée par la police. Il y a aussi cet aspect-là qu'il faut souligner.
Est-ce que c'est d'ailleurs un élément que vous avez, vous, ressenti, Annelise Lierville, à travers donc cette enquête pour l'ONG ACAT, d'une forme de divorce, disons, en tout cas, pas avec l'ensemble de la population et sa police, mais une partie de la population confrontée peut-être à un rejet de plus en plus important, en tout cas.
Alors, ce qu'on constate, c'est une certaine impuissance dans les relations citoyens-policiers. Plutôt que de parler de haine, qui est un terme très fort et qui illustrerait la situation qu'on connaît en ce moment, qui est particulièrement tendue, qui est aussi exceptionnelle que celle qu'on a connue au mois de janvier. On est vraiment dans des moments historiques majeurs, et vous le disiez en introduction de votre émission. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un délitement, en tout cas une relation compliquée. C'est vrai, d'une partie de la population, il y a ce que vous appelez, je crois, la clientèle policière et le reste de la population qui est sans doute moins confrontée à des situations potentiellement problématiques avec les officiers de police et de gendarmerie, parce qu'on parle beaucoup de la police, mais les forces de l'ordre, c'est police et gendarmerie. Donc, pour répondre à votre question, est-ce qu'il y a un vrai désamour? Je ne sais pas si on peut parler de désamour, en tout cas une certaine impuissance face à ce qui est vécu comme des situations d'injustice parfois, notamment dans des cas où il y a allégation de violence policière et où les sanctions qui sont appliquées par la suite ne sont pas forcément à la hauteur de la violence qui a été subie par la personne qui allègue la situation.
Le terme de haine, d'ailleurs, Christian Moana, c'est un terme qui vous paraît pertinent et en tout cas qui peut permettre d'illustrer une partie de ce désamour, parce qu'on peut aussi être critique vis-à-vis de la police sans être dans la haine, évidemment.
Oui, mais on constate qu'effectivement, il y a une haine. Enfin, on parle toujours des 90% de gens qui aiment la police. Il faut voir qu'il y a aussi beaucoup de gens qui subissent notamment des contrôles d'identité, puisque c'est un vrai problème autour du contrôle d'identité en France. Je pense qu'il faudra un jour évoquer encore plus, de manière plus approfondie, ce problème-là, qui dresse en quelque sorte la police contre les citoyens et vice-versa. Le contrôle d'identité est très mal utilisé en France, trop utilisé, enfin, ça mériterait un large débat. Mais effectivement, on a des gens qui se sentent chassés, pourchassés, encadrés par la police, sous pression policière. Et de même que certains policiers peuvent se sentir sous pression d'un certain nombre d'individus.
Est-ce que vous considérez, Loïc Fanouillère, donc je rappelle que vous représentez le syndicat Alliance, qui est un des principaux syndicat de police, hein, c'est le syndicat majoritaire, que certains individus ont de bonnes raisons de ne pas aimer la police française.
Si je voulais caricaturer, je ne vais pas le faire ce soir, nous, on peut dire que seuls les voyous ont des problèmes par rapport au contrôle d'identité, mais je ne vais pas caricaturer comme ça, bien évidemment. Simplement, ce que je vais vous dire, moi, c'est que on a aussi des collègues qui évoluent dans des conditions très compliquées. Un policier affecté à Neuilly n'a pas le même travail, le même volume de travail, les mêmes contraintes et la même pression qu'un collègue qui travaille sur les quartiers de Barbès, etc.
Il y a des contrôles d'identité à Neuilly qui pourraient être assez fructueux aussi.
Hein, si vous faites des sondages sur les contrôles d'identité, par exemple, à Barbès ou Gare du Nord, comme j'ai lu quand même quelques documentations là-dessus, il y a quand même des sondages qui sont assez dirigés. Après, on les interprète comme on veut. Mais nous, si vous voulez, le policier, quand il se lève le matin, notamment en ce moment, il se lève pas en disant cet après-midi, je vais faire un lycéen, je vais faire. Non, le policier, ce qu'il veut, c'est assurer la sécurité des gens qui manifestent pacifiquement. C'est tout ce qu'il veut, le policier, aujourd'hui.
Et d'ailleurs, par rapport aux populations auxquelles vous êtes confrontés, en tout cas une partie d'entre elles, qui sont, on va dire, les plus virulentes, voire les plus violentes, je voudrais vous citer un de vos collègues qu'on a déjà reçu dans l'émission, c'est Nicolas Comte de Unité SGP Police, qui évoque des techniques très rodées et très organisées de ceux qu'on appelle, de manière peut-être un petit peu rapide, parfois d'ailleurs dans les médias, les casseurs. Il dit qu'ils évoluent selon des techniques policières, avec un bouclier devant et des colonnes qui avancent à l'abri. C'est d'un autre ordre que ce qu'on connaît
Clairement, je vais très court pour que tout le monde puisse participer. Très clairement, aujourd'hui, ce qu'on appelle les casseurs, et ce sont des casseurs, sont extrêmement, extrêmement bien entraînés. Ils ont plusieurs couches de vêtements. Ils frappent rapidement. Ensuite, ils enlèvent des couches de vêtements. Ils les remettent dans le sac à dos. Ils se fondent dans la population. Et c'est pour les policiers extrêmement difficile de les extraire en toute sécurité. Donc, c'est un vrai problème parce qu'ils sont hyper organisés.
Voilà, j'ai pas précisé que les propos de Nicolas Comte étaient extraits de l'excellent journal La Croix. Christian Moina.
Oui, non, par rapport à tout ça, et on voit bien que l'un des problèmes qui se pose, c'est que par rapport à éventuellement certains groupes, alors plus ou moins organisés, en tout cas qui ont l'habitude d'aller au contact, on va dire, le problème est que la police n'arrive pas bien à répondre. Et ce qui peut se passer, c'est une certaine frustration qui mène justement à des dérapages. Mais le problème, c'est que ça ne les excuse pas. Je peux comprendre que des policiers soient fatigués, lassés, etc. Mais on peut pas accepter que ça justifie des dérapages, des erreurs, comme on a pu le voir dans la gestion de certaines manifestations, avec des gens qui se sont retrouvés finalement, on les a attrapés parce qu'ils couraient le moins vite, et c'est sur eux qu'on a focalisé l'attention policière et de la justice aussi.
Juste pour préciser, Christian Monnat, c'est-à-dire, vous voulez dire que parce que la police a certaines contraintes dans son mode d'action sur le terrain, ça peut faire un petit peu bouillonner ceux qui y sont, justement, et quand ils passent à l'action, ils y passent de manière plus brutale que s'ils pouvaient agir selon leur guise.
Le problème, c'est que si certains policiers reçoivent des projectiles, et j'en ai vu, et il y en a, donc ça, je peux en témoigner aussi, mais de l'autre côté, on voit comment parfois ces personnes-là qui lancent les cailloux peuvent disparaître relativement rapidement, et que du coup, les policiers, je vais dire les choses un peu brutalement, mais c'est réel aussi, attrapent qui ils peuvent attraper, de même que quand il y a une affaire judiciaire où on ne sait pas trop, parfois on va attraper, il y a un certain nombre d'affaires là sur des jeunes dans le nord-est de Paris, on voit très bien que les conditions d'interpellation, voire les faits qui leur sont reprochés, sont plus que douteux.
Agnès Derville.
Oui, moi ce que je trouve intéressant dans tous ces débats, c'est qu'on a le sentiment qu'en fait le seuil de tolérance sur les violences qui peuvent être commises à l'encontre d'officiers de police ou de gendarmerie, encore une fois, a considérablement baissé, et que par ailleurs il y a une espèce de banalisation des risques qui peuvent être encourus par les citoyens dans leur interaction avec la police et la gendarmerie. Le deuxième point qui, moi, m'étonne en tant que citoyenne et qui appelle à une discussion, en fait, c'est à partir du moment où on s'engage dans la police, finalement, on s'apprête à être confronté à la violence. On est même un peu là pour ça. Et du coup, le respect du droit et de la déontologie par les policiers, c'est le cœur de la pratique de policier. Donc on peut s'étonner qu'on se retrouve dans une situation dans laquelle vos collègues, qui par ailleurs vivent des situations extrêmement difficiles, se plaignent ou se... Comment dire, je pense qu'il faut choisir ses mots dans le contexte actuel, et puis d'une manière générale être juste, déplore une situation dans laquelle finalement ils exercent leur métier et où le bon exercice de leur métier consiste justement à appliquer le droit et les codes de déontologie.
Ça veut dire que pour vous, Agnès Lierville, il y aurait un décalage entre l'hostilité réelle et l'hostilité ressentie par les policiers, et que ce serait un décalage qui serait de plus en plus grand ?
C'est pas tant qu'il y a un décalage. D'ailleurs, je serais assez mal placée pour en parler. Pour le coup, les professionnels ont une voix qu'il faut entendre. En revanche, il y a une contradiction majeure qui viserait à penser que la police n'est là que pour faire du maintien de l'ordre avec des gens pacifistes. C'est pas l'enjeu, je crois. Enfin, je crois fondamentalement que le but des forces de l'ordre, c'est aussi d'arriver à gérer des situations de violence, et encore une fois, dans un cadre qui est un cadre légal, qui est connu, qui est enseigné et qui doit être respecté.
Loïc Fanier.
Il y a beaucoup de choses. Je vais essayer de faire course. Déjà, on évoque beaucoup le contexte des manifestations. Alors, quand on parle de violence policière, déjà, c'est assez péjoratif pour nous, policiers. Ça nous écorche un petit peu. Notamment dans le cadre d'une manifestation, il n'y a pas d'initiative individuelle. On n'est pas dans le cadre, et je vais m'expliquer après là-dessus, on n'est pas dans le cadre de violences que vous pouvez condamner, par exemple, sur votre rapport, des violences qui vous appartient de dénoncer ou pas, mais c'est pas le propos. Là, c'est le problème de l'attroupement et les manifestations. Manifestations, les collègues n'interviennent que sur ordre. Et l'usage de la force strictement nécessaire dans le cadre de ce qu'on appelle de l'autorité légitime. Donc c'est vrai que la difficulté aujourd'hui, et je vous rejoins un petit peu par instant et par moment dans vos propos, c'est que les policiers gagneraient peut-être à intervenir, à avoir la possibilité d'intervenir beaucoup plus tôt, de manière à que ces manifestations ne dégénèrent pas, parce que c'est ça le problème. Parce que nous, ce qu'on veut, nous sommes syndicalistes, donc le droit de manifester est un droit fondamental. Donc ce qu'on veut, c'est que ce droit ne soit pas bafoué, et aujourd'hui il est bafoué. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens puissent manifester. Alors pas dans la violence, je suis désolé de vous contredire là-dessus, mais pour nous, manifester, c'est pas dans la violence, il y a d'autres modes d'expression, la violence n'est pas un mode d'expression pour nous.
Alors là Loïc Fanouillard, vous avez d'ailleurs surtout réagi peut-être à ce qu'a dit Christian Moinat sur le mode opératoire, mais ce que disait aussi Agnès Derville sur cette question du seuil de tolérance des policiers et sur le fait qu'il y a peut-être une moindre acceptation de la part des forces de l'ordre de se dire que c'est aussi un métier qui suppose que régulièrement vous êtes confronté à cette violence.
Oui, écoutez, moi j'étais formateur dans une école de police pendant 10 ans, donc je connais bien les jeunes policiers quand ils prennent à bras le corps ce métier. Il y a une réelle vocation. D'ailleurs, en 2 ans, on a multiplié par 30% les candidats pour passer le concours de gardien de la paix. Donc, ce seuil de tolérance,
vous leur disiez quoi, par exemple, à ces jeunes policiers ? Attention, vous risquez quand même de vous retrouver régulièrement dans ce genre de situation. Quelque chose de totalement anormal. Il ne faudra pas l'accepter.
Non, ça fait partie de la formation. Ils savent qu'ils vont se retrouver, notamment suivant leur lieu d'affectation, dans des situations plus ou moins stressantes, plus ou moins difficiles. C'est vrai que le contexte aujourd'hui est très particulier. Mais les collègues, parce qu'on parle de pseudo-violence policière, parce que je reste prudent dans mes propos, mais la police est aujourd'hui extrêmement contrôlée. Je pourrais vous en parler, et je vais laisser la parole rapidement, je ne vais pas monopoliser, mais je pourrais vous parler des commissions de discipline. J'ai siégé pendant 20 ans dans les commissions de discipline, et je vous assure que quand on sort de cette commission de discipline, c'est pas le moment ensuite qui est le plus prononcé.
Pseudo-violence policière, c'est quelque chose qui vous évoque quoi, Annelise Hierville ?
Violence policière, il faut effectivement savoir de quoi on parle. On parle du recours à la force de manière excessive ou disproportionnée. Et les principes de stricte nécessité et de proportionnalité dans l'usage de la force sont ceux qui doivent être appliqués au cours des opérations. Vous avez soulevé un point fondamental, c'est que les allégations que nous, on a identifiées, parce qu'on a fait un travail d'un an et demi qui a porté de juin 2014 à décembre 2015, qui portait sur 89 cas d'allégations d'usage excessif ou disproportionné de la force à l'encontre de citoyens, ont démontré qu'effectivement l'essentiel des actes qui étaient commis ne se passait pas dans le cadre des manifestations, mais dans le cadre d'un ensemble de séries d'interventions, notamment les interpellations, les reconduites à la frontière, les transports de police, les démantèlements de squats de squats. Et du coup, effectivement, concentrer la discussion autour du maintien de l'ordre dans le cadre de manifestations est peut-être un peu biaisée. La question de la problématique est plus large. Elle se pose en des termes qui vont aussi au-delà du strict moment du moment de l'intervention policière, mais aussi au niveau du traitement de ce qui est allégué par les victimes, notamment par les policiers eux-mêmes, mais aussi par la justice par la suite, les sanctions qui sont appliquées, l'accès des victimes à une enquête impartiale, neutre et diligente, etc.
Juste un point de détail, Annelise Hierville, enfin, qui n'en est sans doute pas hein, d'ailleurs, mais pour votre enquête, comment est-ce que vous avez travaillé ? C'est-à-dire, est-ce que vous avez travaillé justement avec la police pour essayer de recenser ces actes, ou bien est-ce que vous êtes servi d'articles de presse, de témoignages ?
Les témoignages sont venus soit de collectifs de victimes, soit ont été identifiés dans la presse, ce qui est intéressant d'ailleurs, parce qu'on a eu une réponse de l'IGPN là-dessus en disant que c'était peut-être une cartographie qui était limitée hein, de la situation en France. Et d'ailleurs, on n'avait pas vocation à faire une lecture complètement exhaustive de la situation, mais d'amener des éléments auprès des autorités publiques pour qu'ils s'en saisissent. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer, donc on en est ravis. Les circonstances, en l'occurrence, sont assez malheureuses. Donc la manière dont on a procédé, c'est comme ça, collectif de victimes, victimes, famille de victimes. Dans un certain nombre de cas, dans 26 cas, les gens étaient décédés, donc on n'a pas pu les rencontrer nécessairement, mais on a rencontré les familles. La deuxième chose qu'on a faite, c'est qu'on a fait 65 entretiens avec des sociologues, des magistrats, des policiers, des gendarmes. Bref, on a essayé d'avoir la vue la plus large possible, des sociologues évidemment, pour essayer de se faire une idée précise de qu'est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui pose problème dans le recours à la force ? Et finalement, que nous disent les gens qu'on a rencontrés ? C'est qu'il y a, ce que je décrivais en début de l'émission, une espèce d'impuissance et un sentiment d'impunité. Et ça, en soi, devrait être entendu.
Sur la question de la méthodologie, Christian Moinard, on va revenir évidemment sur le fond, mais est-ce que ça vous semble être un fonctionnement normal, et peut-être d'ailleurs qu'on peut comparer avec ce qui se passe dans d'autres pays, que ce soit une ONG, vous n'êtes pas les seuls d'ailleurs hein, à ACAT, il y a aussi Amnesty qui évoque ces questions, on avait fait une émission il y a quelques mois de cela, alors là c'était des journalistes, c'était Basta Mag, mais que ce soit voilà en tout cas des ONG qui prennent en charge ces enquêtes, ça vous semble traduire un fonctionnement normal, ou bien c'est quelque chose d'anormal? Et ça devrait être aussi des éléments statistiques qui soient fournis par la police.
Que ça plaise ou non à la police, je suis désolé, mais c'est normal qu'il y ait un contrôle. On est dans une démocratie, c'est normal qu'il y ait un contrôle à la fois interne et à la fois externe par d'autres des associations, des gens qui n'appartiennent pas au ministère de l'Intérieur, même si je suis d'accord avec vous, l'IGPN fait un travail assez intéressant sur toutes ces questions de violence ou de dérives policières de manière plus générale. Donc ça me paraît complètement normal qu'il y ait un contrôle citoyen. Et je dirais c'est même d'autant plus important dans le système français qu'on est dans un système qui est quand même très centralisé avec des polices qui sont peu ouvertes au contrôle démocratique courant. Juste un mot, on va pas comparer avec plein d'autres pays, mais en Angleterre, actuellement, l'équivalent des préfets de police sont élus. Et il y a des commissions de citoyens pour contrôler les activités policières. Alors, je sais que la police organise ou organisait parfois des rencontres avec les citoyens, mais on n'en est pas à obliger des commissaires de police ou des policiers de secteur à rendre compte aux citoyens de leur, l'action qui est faite par leurs soins. Et je pense que c'est là un problème. C'est qu'on a une police qui travaille pour l'État. Et c'est le problème aussi du maintien de l'ordre. C'est que il y a un débat sur le fond de la loi, je me prononcerai pas, mais il y a un débat sur une loi qui n'a pas eu lieu, qui a été escamotée, que la rue voudrait faire émerger, et on demande aux policiers, qu'ils soient d'accord ou non, c'est pas la question, de, à un moment, laisser un petit peu la voie ouverte, et puis de fermer, parce que ça gêne le gouvernement à un autre moment. Donc il y a une espèce de relation, je dirais, un peu perverse, entre un gouvernement qui utilise sa police pour fermer le débat démocratique, et une police qui, du coup, se trouve en situation d'exiger en retour un certain nombre de choses du gouvernement. Donc on est dans une situation qui n'est pas très saine, malgré tout.
Loïc Van Vuillard.
Oui, d'ailleurs, si on écoute et on lit ce qui se passe depuis quelques semaines, on peut entendre ou on peut lire aussi que le gouvernement utilise un peu la police pour pourrir un peu la situation, et ce qui expliquerait peut-être le retard qu'on a interpellé. Bon, ça, je laisse ceux qui écrivent ça, je laisse la responsabilité de ces propos-là. Moi, je voulais revenir sur un terme qui franchement, moi me crispe, et qui crispe les policiers, c'est le sentiment d'impunité. Je vous assure, mais vraiment que les collègues, quand ils vont travailler, ils n'ont absolument pas ce sentiment d'impunité, franchement. Et même pour aller faire, effectivement, je fais le contrepoids aujourd'hui, mais les collègues, quand vous allez discuter un petit peu avec eux, ils en ont aussi marre de se faire insulter impunément. L'impunité, ils la ressentent aussi à leur égard, c'est-à-dire qu'ils prennent des
plaintes pour outrage quand même.
Non, mais je vous dis ce que je ressens quand on voit les collègues sur le terrain en police secours. Ils se font cracher dessus, ils se font insulter.
C'est vrai.
Ils se font tabasser et en toute impunité parce que la justice ne suit pas. Donc, si vous voulez, il y a le contrepoids aussi. Non, je vous le dis parce qu'on le vit sur le terrain. Je pourrais, on n'a pas le temps aujourd'hui, mais hors plateau, vous donner quelques éléments là-dessus. Mais les collègues ressentent aussi ce sentiment d'impunité parfois. Donc, l'impunité, attention, en tout cas, ce que je vous dis, et je m'arrête là, les collègues vraiment ne ressentent absolument pas ce sentiment d'impunité.
Je vais prendre le risque de vous crisper encore un tout petit peu, Loïc Fanouillat. Je voudrais vous faire écouter un témoignage. C'est quelqu'un, il s'appelle Yacine Mohamed, qu'on avait reçu. Alors là, c'était une émission qui remonte à assez loin. C'était le 27 octobre 2011, qu'on avait intitulé « Les quartiers ont-ils la police qu'ils méritent ?» Il y avait le sociologue Didier Fassin qui venait de sortir une enquête sur la BAC et son travail dans les quartiers. Il était venu. Et puis, il y avait aussi un collectif de jeunes des Gadevilliers, c'est comme ça que s'appelait leur ouvrage, qui racontait leur vie dans les quartiers et notamment leur rapport avec la police et en particulier la BAC. Écoutez ce qu'il nous avait raconté.
Lorsque dans une même journée, en fait, on voit 3-4 fois la même voiture de police qui tourne dans le quartier et qui n'hésite pas à s'arrêter devant même des groupes de jeunes qui sont juste en train de débattre, qui ne font de mal à personne et qui se retrouvent confrontés à des insultes, même parfois raciales, il y a un peu une tension qui monte et on a l'impression parfois que c'est voulu, que c'est provoqué. Et donc il y a une réaction. On a beau expliquer que bon, ça sert à rien de répondre à la provocation. Mais malgré ça, il y a certains jeunes qui vont pas hésiter à provoquer de leur également et répondre à la provocation par, bah, je sais pas moi, un jet de pierre ou des insultes. Parce qu'il y a aussi l'aspect d'impunité des forces de l'ordre. On sait très bien que même si on va avoir des propos raciales, on ne pourra pas apporter plainte à l'IGS parce que la procédure n'aboutira pas. Donc en fait, c'est tous ces éléments qui font qu'au bout d'un moment, on se dit que bah, la meilleure des réponses, c'est de répondre à la provocation par la provocation.
Voilà, témoignage, je le rappelle, qui est déconnecté des événements actuels, puisqu'il remonte à il y a environ 5 ans. Réaction, Loïc Van Vuillard.
Écoutez, j'ai déjà entendu ça. C'est compliqué de réagir sur une interview invérifiable. On ne sait pas du tout le contexte. Bref, c'est compliqué. Tout ça, c'est compliqué. La relation police-population, notamment dans les quartiers où il y a un fort bassin de délinquance, c'est très très compliqué. Le travail, notamment des collègues de là-bas, qui interviennent toujours, notamment eux, dans des situations particulièrement difficiles. Encore une fois, les collègues essayent de travailler, travaillent en respectant des règles de droit qui sont très précises. Et quand un collègue commet une infraction, il est poursuivi et c'est normal. Et c'est normal, il n'y a aucun quiproquo là-dessus. Et moi, je ne vois pas dans mon entourage, ça fait près de plus de 30 ans que je suis dans la police, je n'ai jamais vu autour de moi des policiers commettre des exactions sans être punis.
Annie Zierville, dans l'enquête que vous avez menée, est-ce que vous avez constaté que les violences policières que vous essayez de dénumérer, même si ce n'est pas exhaustif, elles sont très localisées justement dans certaines zones?
Non, ce qu'on a constaté, c'est ce qu'on disait en début d'émission, c'est qu'il y a une partie de la population qui est plus sujette à des risques de d'usage excessif et disproportionné de la force. Je préfère utiliser ce terme-là à dessein. La deuxième chose sur laquelle je voulais rebondir, sans nier le caractère extrêmement difficile des conditions de travail dans lesquelles vos collègues peuvent être amenés à évoluer, les dépositaires de la force légitime en France, c'est la police et la gendarmerie. Dès lors, l'exemplarité est du côté des forces de l'ordre.
D'accord.
Et du coup, ça fausse un peu le débat de renvoyer dos à dos des gens qui sont des contrevenants et des gens qui sont des policiers. Voilà. Pour répondre au deuxième aspect que vous souleviez, qui est, je ne connais aucune situation dans laquelle il n'y a pas eu de poursuite quand il y avait allégation de violence policière, employons le terme. C'est pas les conclusions qu'on tire, et surtout on n'a aucune donnée pour étayer ça. Et en fait, c'est un des angles qu'on a appuyé dans le rapport qu'on a porté, c'est qu'effectivement on a un mal fou à obtenir des données fiables sur les plaintes qui sont déposées, la manière dont elles sont suivies au plan administratif et judiciaire, le traitement qui a été apporté à ces plaintes en interne et en externe. Et du coup, ça donne le sentiment d'une opacité. Et d'ailleurs, l'IGPN et la directrice de l'IGPN concluent aussi à une nécessité de transparence plus grande. Et c'est des efforts qu'on a salués.
Vous parlez même d'une posture systématique de déni.
C'est peut-être...
Enfin, je crois que c'est quelqu'un de la CAD dans une interview, je crois que c'est le directeur dont le nom m'échappe, voilà, qui répondait de cette manière-là.
Disons,
enfin, en tout cas, il y a une forme de déni pour vous ?
Il y a un problème d'opacité, il y a un problème... Vous évoquiez d'autres contextes dans lesquels vous travaillez, monsieur. C'est évident que dans un certain nombre de pays, le fait de communiquer des informations sur l'usage de la force fait partie de la normalité. Et du coup, c'est là qu'on peut s'apercevoir s'il y a une détérioration de la situation ou au contraire une amélioration. Finalement, on évolue tous dans un espèce de no man's land où on a peu de données et du coup, on a beaucoup de mal à évaluer l'évolution de la relation entre citoyens et police, qui est quand même un peu problématique dans un état de droit, effectivement.
Est-ce que ça, pour vous, Christian Moina, c'est lié, par exemple, à un problème de formation ou bien davantage au statut et peut-être aussi à l'histoire de ce qu'est la police française?
Alors, il est clair que le problème de l'histoire de la police française, on ne va pas développer ici, mais on a, en tout cas, le résultat, c'est qu'on a actuellement une police hyper centralisée, hyper bureaucratique. On pourrait compter le nombre de policiers qui passent leur temps dans des bureaux. Je suis désolé, c'est un vrai problème. Je voudrais juste... Là aussi, en Angleterre, on a supprimé plein de postes de policiers dans les bureaux. Il y a eu des mouvements à un moment en France. On a ce problème-là. Juste pour revenir par rapport à la question de l'impunité, il est clair que quand on va dans un commissariat dire qu'on va déposer plainte par rapport à des collègues du policier qu'on a en face de soi, je dirais, après, je le comprends, c'est humain. La plainte, elle n'est pas forcément prise, on vous dissuade, voire on ferait pression. C'est, à la limite, je dirais, normal, on trouve ça dans d'autres corps de métier. La vraie question, elle est comment d'autres institutions pourraient relayer. Et de ce point de vue-là, on peut dire que la justice n'est pas forcément à la hauteur. La justice a extrêmement peur de vexer les policiers. On n'a pas des parquets qui vont mener des actions de contrôle de la police. Alors que, et on en parlait tout à l'heure, on parlait du contrôle de la police. Le parquet, notamment, n'est plus en situation... pour des tas de raisons, de contrôler la police, alors qu'ils devraient le faire. Les juges d'instruction, c'est la même chose. On n'a plus de magistrats qui contrôlent les policiers. Donc effectivement, on est obligé d'inventer d'autres choses, le défenseur des droits, différentes structures, effectivement, les ONG. Pourquoi ? Parce que il y a l'IGPN, mais on pourra toujours suspecter l'IGPN d'être... un parmi d'autres policiers, même s'ils mènent une action et que ça fait pas toujours plaisir, je sais, au head des policiers de se faire convoquer à l'IGPN, mais on est quand même dans une nécessité de, quand on confie à des gens des armes violentes et y compris, et ce qui est intéressant, enfin, je voudrais quand même le souligner, on a des armes à feu, les policiers les utilisaient très peu, depuis qu'on leur a confié des armes dites non létales, qu'on a développé aux États-Unis justement pour éviter que aux États-Unis des policiers qui utilisaient les armes à feu utilisent d'autres armes. On leur a donné les tasers et les flashballs,
voilà.
En France, on a donné ça, mais à des policiers qui utilisaient peu les armes à feu. Et je pense que ça n'aide pas à améliorer les relations police-population, et ça aussi bien en situation de maintien de l'ordre qu'en situation plus courante d'interaction police et d'autres groupes.
Bon, Loïc Fenouillard, c'est vrai que si le contrôle des actes des policiers était peut-être plus clair pour la population, en tout cas moins suspect justement d'ambiguïté parce que ce sont des policiers qui jugent d'autres policiers. Mais s'il y avait un contrôle qui apparaisse plus démocratique, peut-être que les policiers retrouveraient la confiance qu'ils estiment avoir perdue à l'égard d'une certaine population et que ça apaiserait les choses, non ?
En fait, je vous rejoins sur un point, c'est que vous parlez d'opacité. Moi, je ressens un énorme décalage. C'est-à-dire que moi, policier, je me sens dans ma peau de policier hyper contrôlé. Hyper contrôlé. Vous ne pouvez pas imaginer combien le policier est contrôlé en interne dans un commissariat de police. Sa hiérarchie intermédiaire, l'IGPN, effectivement. Maintenant, vous avez des plateformes de dénonciation, etc. Et le policier vit en permanence avec cette peur de commettre un acte qu'il n'aurait pas maîtrisé, etc. Il a la peur au ventre dès qu'il y a notamment une manifestation. Il a toujours peur que ça dégénère et parce que c'est pas lui sa vocation. Donc il y a une espèce de décalage entre ce qu'il ressent lui le policier aujourd'hui. Il se sent hyper contrôlé. Et en plus, c'est une vérité. La police française, je pense pas que vous allez me démentir là-dessus, est une des polices les plus contrôlées en Europe. Ils sont très contrôlés. En tout cas, les défenseurs du droit, etc. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. C'est ce que je vis. Mais là, je reviens vraiment là-dessus et je veux vraiment insister. C'est que le policier aujourd'hui dans les commissariats, il se sent hyper contrôlé. C'est pour ça qu'il y a un décalage. Effectivement, peut-être qu'il y a, il y a un travail à faire là-dessus. Mais bon, il est évidemment pas de mon ressort et pas du ressort d'un syndicat de police. Mais c'est une voie intéressante, oui.
Oui, non, mais d'une manière plus générale, on voit bien comment ce système hiérarchique dont je parlais tout à l'heure fait que on a en quelque sorte le policier de terrain qui est un peu prisonnier d'ordres qui peuvent être contradictoires. Et on le voit bien, je pense, sur les questions de maintien de l'ordre actuellement. On a à la fois un gouvernement qui n'interdit pas totalement les manifestations, qui en même temps voudrait pas que ça se prolonge, joue un peu l'attentisme. Donc tout ça n'est pas très clair. Et on a des rapports qui ne sont pas très clairs non plus entre la hiérarchie policière et le politique. Tout ça est, il est vrai, assez flou, assez compliqué. Mais d'où l'intérêt d'avoir un meilleur, je dirais, contrôle des citoyens et d'ouvrir la gestion de la police à la demande de la population ou les demandes des populations, à demander aux policiers de faire de la pédagogie. Ce qui est quand même surprenant, c'est que vous avez en même temps ces sondages qui nous disent depuis un certain temps 80-90% de la population aime la police et en même temps des polices qui réclament qu'on les aime. Enfin, vous réclamez quelque chose qui existe déjà. Je suis désolé, je caricature. Oui. Mais non, mais c'est le problème, c'est que quelque part, est-ce qu'on va faire un décret pour dire il faut nous aimer, hein?
Attention, monsieur, dames, s'il vous plaît. Devant, il y a beaucoup de véhicules. Attention aux pieds.
Voilà, on est le 11 janvier 2015. Manifestation après les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hyper Cacher de Vincennes avec ces scènes qui, je veux dire, quand on les regarde à nouveau, sont assez émouvantes. Hein. On voit ces quarts de policiers qui font de la foule et qui sont applaudis. Christian Moyen, vous évoquiez justement la question de les policiers ont envie presque qu'on les aime. Est-ce que c'est la bonne façon pour vous, Anne-Lise Lierville, en tout cas, de poser le problème ? C'est-à-dire, est-ce que finalement la police doit être aimé ou bien est-ce que la police doit être respectée, ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
Je pense qu'effectivement l'enjeu c'est que la police soit respectée, qu'elle fasse son travail correctement et que dans l'exercice de ses fonctions elle le fasse en respect de la loi et de la déontologie. Enfin, je pense que poser le problème de cette manière, c'est dès qu'on est dans le registre de l'affectif et de l'amour, on est un petit peu hors cadre. Ceci dit, effectivement, nous, notre slogan de campagne qui a accompagné le discours, c'est que pour continuer à applaudir la police, il faut dénoncer les violences policières. Et effectivement, je crois que c'est le cœur du débat. C'est que, en posant de manière raisonnée, pour une fois, non confrontationnelle, la problématique d'une interaction qui peut se faire au quotidien et dans le cadre des manifestations entre des dépositaires de la force qui ont dans les mains des armes à feu, des armes à létalité réduite dont on voit les effets. Le flashball a causé encore des victimes dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre ces derniers temps. C'est des victimes sévères. Hein, les blessures sont lourdes, des gamins qui sont éborgnés et des techniques d'immobilisation qui peuvent, elles aussi, quand elles sont mal utilisées, entraîner des décès, voire des blessures. Dans ce cadre-là, il faut se poser la question de comment on améliore les relations et les pratiques de dépositaires de la force de l'ordre.
Et avant de faire réagir Loïc Fanouillard, est-ce que vous diriez que c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle loi qui arrive et qui va permettre d'ailleurs de sortir de l'état d'urgence en donnant de nouvelles possibilités, disons, d'intervention aux policiers. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on a déjà consacré une émission spécifique à ce sujet, mais enfin, en tout cas, disons, plus on donne de pouvoir à la police, plus il est nécessaire et qu'elle soit contrôlée, en tout cas que ce débat ait lieu.
Le débat, il est absolument nécessaire. Enfin, on est vraiment dans une période de crispation. Élargir le recours à la force aujourd'hui, est-ce que c'est la bonne réponse à apporter? Et est-ce que les policiers sont désireux de ça? Vous pointez, et franchement, c'est entendable depuis le début de l'émission, les difficultés qu'ont vos collègues à gérer au quotidien l'ensemble des procédures auxquelles ils sont soumis. Et d'un autre côté, on élargit les conditions dans lesquelles les problèmes peuvent se rencontrer, donc les violences policières s'exercer. Donc la question, elle serait bien de savoir si la police elle-même est désireuse de voir s'élargir le cadre dans lequel elle exerce la force.
Et posant justement la question au représentant du syndicat Alliance, Loïc Fanouillard.
Non, mais la loi évolue en fait au niveau des... Là encore, on ne donne pas de pouvoir supplémentaire aux policiers, notamment on peut parler de la légitime défense, le texte n'a absolument rien changé, et au contraire, a compliqué un peu la tâche des policiers qui doivent réagir de manière instantanée, et un policier, ça reste un être humain. Et je dois dire que cette légitime défense, pour nous, est inadaptée. Alors, c'est vrai qu'encore une fois, on a un décalage, parce que nous, ce qu'on demande, on demande plus de moyens de travailler. Le contrôle ne nous fait pas peur, ne fait pas peur de policiers. Mais ce qu'on veut, nous, c'est un contrôle objectif. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on réclame pas être aimé, on est un peu dans la caricature. Aujourd'hui, simplement, on s'est dit halte, parce que ce qui se passe aujourd'hui est très dur à écouter pour les policiers. Les tracts, notamment de la CGT, sont infamants pour les policiers aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on a réagi de manière très très dure. Après, voilà ce que je voulais dire là-dessus, c'est que pour nous, le pas qu'on pourrait faire, le pas qui pourrait, au moins le trait d'union qui pourrait se mettre en œuvre, notamment dans des villes un peu difficiles et très très criminogènes, c'est pas en tout cas en mettant en place la violence notamment par ce type de communication qu'on va pouvoir régler les choses. C'est la violence ne résout absolument rien. Encore une fois, les policiers se sentent aujourd'hui sont prêts, je veux dire, à faire des efforts. Ils en font énormément, mais de grâce, ne parlons pas d'impunité dans leur quotidien.
Tiens, hier on faisait une émission qu'on a consacrée à la mixité sociale à l'école. Est-ce que ça peut être justement un élément de réflexion, que ça en est peut-être déjà un, d'ailleurs Christian Moina, c'est-à-dire d'avoir une police qui soit peut-être davantage représentative de la population auprès de laquelle elle intervient?
Il y a des débats là-dessus depuis au moins le milieu des années 90, si c'est pas plus tôt. On voit qu'on a eu énormément de mal à recruter, y compris des emplois jeunes, enfin les ADS dans la police nationale, dans ces quartiers difficiles, alors qu'un certain nombre de ces jeunes s'engageaient dans l'armée. C'est dire que dans ces quartiers-là, et les jeunes en particulier, ont une meilleure image de l'armée que de la police. Ça doit amener à réfléchir. Moi, je me positionnerai pas du côté de l'amour, de la haine ou de choses comme ça. La vraie question qu'il faut se poser, c'est que si effectivement on constate que les policiers rencontrent des problèmes très graves de haine avec un certain nombre de personnes, il faut se poser la question du pourquoi et de la légitimité. Alors, où on va faire un nouveau décret où on va dire il faut aimer les policiers autoritairement, etc. Non. Et vous voyez bien que ça ne marchera évidemment pas, bien entendu, et c'est pas ce que vous réclamez. Ou alors, il va falloir se poser la question de la stratégie de la police en France. Et on voit bien que on a raté le coche de la police de proximité, on n'a pas relancé ça alors que tous les autres pays européens, sans exception, et tous les pays développés, voire des pays non développés, ont réfléchi à cette question de la police de proximité. Ça n'a pas toujours été un succès. En France, on est encore sur la tolérance zéro, une gestion plus ou moins par la politique du chiffre, avec des primes, des trucs comme ça. Et tant qu'on sera dans cette police bureaucratique, cette police de papier avant tout, et de gestion par des chiffres, on aura un problème.
Un tout dernier mot, Christian Moina, et ce sera la conclusion. Il y a un élément qu'on n'a pas évoqué. Vous nous parliez des années 90, avec ce débat sur la mixité sociale, enfin, la représentativité sociale dans la police. Ce qui n'existait pas à l'époque, c'était Internet, c'était la diffusion très, très rapide des images. Est-ce qu'il n'y a pas un effet loop aussi aujourd'hui et de la c'est-à-dire qui est sur les violences policières et sur les violences contre la police et qui fait peut-être qu'on exagère aussi ce que... Alors,
bien sûr, parce que, enfin, tout à l'heure, la question était posée de savoir si on a plus de violences policières. Je pense qu'on a, en tout cas, il y a beaucoup de policiers qui n'ont surtout pas envie d'être confrontés à la violence et qui ne s'autorisent pas ce que certains de leurs ancêtres s'autorisaient dans certains commissariats. Bref. Mais ce qui est clair, c'est que l'irruption de la vidéo permet maintenant, que ce soit d'ailleurs la vidéo surveillance tenue par les mairies ou le portable tenu par n'importe qui, de, à chaque fois qu'il y aura un dérapage, et il faut que la police l'intègre, à chaque fois qu'il y aura un dérapage, ce sera très vite balancé sur les réseaux sociaux. Donc le contrôle, il sera là aussi, le contrôle citoyen arrive par là.
Eh bien, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Christian Moina, Anne-Lise Lierville et Loïc Fanouillère, émission que vous pouvez réécouter aussi longtemps que vous le souhaitez. Vous pouvez également la télécharger, la commenter, nous écrire, suivre aussi notre fil Twitter, enfin, plein de choses. Merci à toute l'équipe du Grain, Céline Leclerc, Mélanie Chalandon, Mathilde Barbier, Cyril Baer, Hugo Florent. Émission réalisée par Jean-Christophe Francis avec à la prise de son Bruno Gagnère-Fontanille. Demain, le hip-hop souffre-t-il d'un délit de sale gueule? Ce sera la question à partir de 18h20. Tout de suite, c'est Ping-Pong. Mathilde et Martin, bonsoir.